regard sur le Moyen-Orient.
L'émission du Synode.
Présentée par Olivier Bonnel de Radio Vatican.
Et Frédéric Mounier du journal La Croix.
Bonsoir, bienvenue à Rome dans les studios de Radio Vatican pour le 9e numéro de Regard sur le Moyen-Orient, une émission diffusée en partenariat avec le journal La Croix, dont je salue le correspondant ici à Rome, Frédéric Mounier. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Une émission réalisée en partenariat avec l'œuvre d'Orient, et j'en profite également pour saluer les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame qui peuvent aussi réécouter cette émission. Pas de congrégation générale ce mercredi au Synode, puisque le rapporteur général et les secrétaires spéciaux du Synode étaient réunis pour faire la synthèse des propositions faites ce mardi au sein des carrefours, des propositions qui seront remises au pape ensuite en vue de l'élaboration de son exhortation post-synodale. Ce soir, nous sommes ravis d'avoir comme invité sa béatitude Monseigneur Antonios Naguib, patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques. Vous êtes rapporteur spécial de ce synode. Bonsoir, béatitude.
Bonsoir.
Faut-il vous appeler déjà éminence, puisque l'actualité de ce mercredi, c'est l'annonce des 24 nouveaux cardinaux choisis par le pape lors du prochain consistoire en novembre. Mais Monseigneur Naguib, vous êtes l'un des heureux élus. Alors comment vous réagissez à cette nomination ?
Eh bien, quand la nouvelle m'a été communiquée, ça a été une très grande surprise pour moi parce que je n'ai que 4 années de ministère patriarcal dans le patriarcat copte catholique d'Alexandrie et ensuite... J'ai déjà 76 ans, je me suis dit, il faut le donner à quelqu'un de plus jeune, quelque chose de pareil. Et quand le secrétaire d'État, son éminence cardinal Bertone, me l'a communiqué, je lui ai dit la même chose, il m'a dit, bien, c'est surtout aussi pour votre Église, donc pour montrer et le souci et l'amour du Saint-Père vers l'Église, et aussi pour encourager les églises orientales catholiques et leur faire sentir la proximité du Saint-Père et du Saint-Siège et aussi de les associer plus dans les services catholiques, donc universels de l'Église.
Alors, Monseigneur Naguib, juste une petite explication. Donc, vous serez d'ici un mois créé cardinal. Vous venez nous expliquer qu'il s'agissait de manifester la proximité du Saint-Siège. Juste une petite explication. On nous dit que vous allez recevoir ce titre de cardinal, qui est un titre de l'Église latine, mais que vous ne recevrez pas la responsabilité d'une Église de Rome, comme il est d'usage pour les cardinaux de l'Église romaine. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ?
Oui, c'est exact, car d'après le Concile... Le patriarche a été de plus en plus considéré comme le chef et le père, comme le dit même le droit canonique et aussi le Concile Vatican II, de son Église. Et par conséquent, son titre, son siège et son Église, c'est son Église de son rite. Donc, on ne lui confie pas, on ne le nomme pas pour une autre Église. Et ça a été le cas pour les derniers patriarches orientaux.
Le patriarche Sfer et le patriarche Delhi.
Et le patriarche Delhi. Mmh. Et le patriarche Hozar aussi.
Très bien.
Oui. Alors, Monseigneur Naguib, on l'a dit, vous êtes rapporteur spécial de ce synode. Vous avez un peu un regard d'ensemble sur les travaux qui ont commencé donc, le 10 octobre dernier. Quelles lignes un peu saillantes déjà ont ressorti, selon vous, depuis ces 10 derniers jours? Est-ce qu'il y a déjà des grands axes qui se dessinent?
Les grands axes ont apparu surtout pendant les travaux. Il y avait bien sûr les deux documents, les lineamenta, les grandes lignes, et l'instrumentum laboris, l'instrument de travail, et qui donnait un peu le regard général sur la situation et aussi les attentes de nos églises dans la région. Et c'est apparu très clairement au cours des interventions et des discussions dans les cercles mineurs à la suite des deux rapports, soit avant les interventions, soit après les interventions, l'apport qui a été donné par les membres synodaux, les pères synodaux et les autres membres.
Donc c'est un synode bien vivant.
Très vivant.
Très vivant.
Très vivant. Mmh. Et je dirais plus que ce qu'on attendait. Et ça, ça exprime et aussi ça traduit l'attente que nous avions d'avoir une telle assemblée entre et avec tous les évêques et d'autres représentants de nos églises et des autres conférences épiscopales, des autres religions, des dicastères, du Saint-Siège. Et on le désirait, on l'avait proposé plusieurs fois au Saint-Père. Et voilà que ça se réalise. Par conséquent, la réponse est très dynamique.
Je rappelle juste que dans la méthode de travail, vous avez parlé des cercles mineurs pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien. Ce sont des groupes de travail en fonction
Exactement.
Des langues, hein, des,
oui,
des patriarches et
oui.
des pères synodaux.
Il y a eu les trois langues, il y a eu naturellement l'arabe, il y a eu le français qui était le plus fort. Il y avait six groupes de travail
en France.
Français.
C'est dire que la francophonie est encore bien vivante.
Et voyez,
voilà.
Oui,
il faut s'en féliciter.
Oui. Et deux Italiens et deux Arabes. Mais six groupes de travail en français.
Alors, vous avez abordé un certain nombre de dossiers chauds. On va essayer de les passer en revue à ce micro, notamment la question de la relation avec l'islam, ou plutôt, faudrait-il dire, la relation avec les islams. On a eu le sentiment, en écoutant votre relation lundi dernier, que autant vous étiez très clair sur l'opposition qu'il fallait manifester au fondamentalisme musulman, mais par ailleurs, vous souhaitiez dissocier l'islam des régimes répressifs, qui, eux, empêchent la liberté de conscience, la liberté religieuse. Est-ce que c'est bien comme ça que vous voyez les choses, Monseigneur ?
Et je crois que c'est encore plus nuancé.
Allez-y.
Oui. Il y a différents courants de musulmans. Nous préférons musulmans que l'islam. Car, de fait, ces courants sont souvent des courants personnels, des choix personnels de personnes et de groupes. Donc, de groupes menés par des personnes. Et ces courants représentent différentes orientations de ces groupes. Comme je l'ai mentionné dans le dernier rapport, il y a le groupe modéré, on peut dire, qui représente la majorité.
Ceux que vous appelez les traditionnalistes pacifiques.
Les traditionnalistes,
c'est bien ça l'antisémite.
Oui, je l'ai dit,
d'accord.
Oui. Et qui sont, de fait, ce sont les modérés. Ils représentent l'islam pacifique avec qui on a vécu pendant 14 siècles. Et il y a l'élite ouverte et qui est plus porté et orienté vers l'état civique qu'on a préféré à la laïcité positive qui a une résonance
trop française,
oui,
on peut le dire.
Pour nous, péjorative,
oui, voilà,
parce que
ça.
Pour l'Orient et pour l'islam, et même pour nous autres aussi, les chrétiens, ça représente un éloignement de la religion ou un refus, un écart, ce qui est refusé en principe, naturellement. Et ensuite, il y a les groupes extrémistes, pas seulement fondamentalistes, mais extrémistes et violents. Et ceux-ci sont une minorité, mais dont la voix est très élevée et qui font du bruit et qui font du mal.
Mais vous, vous maintenez la priorité au dialogue.
Naturellement, c'était très, très, très clair. À tel point que même des évêques m'ont dit, mais les relations avec les musulmans ont occupé beaucoup d'espace. Je leur ai dit, eh bien, c'est la réalité de notre vie et aussi c'est la réalité de ce que les évêques ont apporté. Parce que la consigne qui m'a été donnée, moi, je ne mets pas mes idées personnelles. Je suis rapporteur. Je rapporte ce que les pères et les membres de synode ont exprimé concernant la vie de l'Église catholique et des chrétiens dans la région et les attentes, les espoirs et les difficultés.
Monseigneur Naguib, vous avez parlé des élites, justement, de l'islam. Dans votre pays, l'Égypte, est-ce qu'il y a justement des intellectuels, des élites qui pourraient être des voix, justement, importantes au sein de l'islam ? Et comment ce synode est-il perçu, justement, chez les musulmans de votre pays ?
Nous avons une élite très visible. Et de plus en plus, il y a d'écrivains et aussi des des orateurs dans les chaînes télévisives qui expriment très clairement le principe de l'État civique, de la séparation de la religion et du de politique. L'État, et de l'égalité complète et de la citoyenneté totale pour tous les citoyens.
Mais alors ça, Mgr Naguib, c'est un rêve ou c'est un avenir pour vous ?
Je crois que pour le moment, il y a un début, on s'y achemine. Mais même si c'est le choix, je dois le dire, oui, c'est le choix du gouvernement, du régime, mais pour l'application pratique, car l'application pratique se fait par des personnes qui ne sont pas tous de la même mentalité et de la même orientation. Il y a quelquefois soit des applications un peu tranchées, ou bien il y a aussi des oppositions. Et si on prend les relations pratiques des citoyens au niveau de la base, il y a des gens très amicaux et il y a d'autres qui ont été influencés par des courants fanatiques.
Mais est-ce
que on trouve les deux.
Est-ce que vous pensez, Mgr Naguib, que l'État civique donc, que vous venez d'évoquer est véritablement applicable dans le contexte actuel de la plupart des pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire cette séparation de l'État et de la religion ?
On en parle. Et comme j'ai dit, il y a non pas seulement quelques, mais des voix qu'on peut maintenant dire, un bon nombre de voix qui se multiplient. Et pendant ces 5 dernières années, moi-même, j'ai été impressionné en Égypte du nombre de voix qui expriment cette idée. À tel point que toutes les fois, moi, je n'ai de temps que de lire notre journal quotidien El Ahram, qui est le journal officieux.
Principal.
Et j'y vois presque tous les jours un article ou une colonne qui exprime cette idée. Et souvent, elle m'impressionne tellement que je la copie de l'Internet et que je la garde chez moi. Je dis, un jour, j'aurai besoin de faire sortir ça. Dans une rencontre, par exemple, à un niveau, disons, officiel ou de rencontre interreligieuse, et il faudra rapporter ça, et pas seulement ce qui est négatif. Ce qui est négatif, on l'entend partout, et c'est rapporté par tous les sites, par tous les journaux. Mais ça aussi, c'est à relever.
Les choses changent petit à petit. Alors, Mgr Naguib, là, on est en train d'évoquer justement le rapport avec le politique. Est-ce que vous diriez que ce synode, jusqu'à aujourd'hui, est d'abord un synode pastoral, comme on l'a présenté, ou un synode politique, ou un mélange des deux ? Quelles sont les grandes tendances ?
Eh bien, le courant majoritaire est pastoral et spirituel. Mais, naturellement, nous vivons surtout quelques pays. Et je dois citer, spécialement, particulièrement, la Terre Sainte, et donc Palestine et territoire palestinien, donc Israël et territoire palestinien, et l'Irak. Ce sont les pays les plus touchés par les conflits de la région.
Il y a un document qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le document Cairo, justement. C'est un cri, finalement, de ces chrétiens palestiniens face à l'occupation israélienne. Quelle est un peu votre position là-dessus ?
Eh bien, je ne l'ai connu que lorsque je préparais la relation avant les interventions. J'avais trouvé une phrase qui disait qu'il serait bon d'écouter la voix des chrétiens qui sont sur le lieu. Et j'ai cherché sur l'Internet et j'ai trouvé qu'on parlait de ce document. Et en même temps, j'avais rencontré, je ne me rappelle plus dans quelle rencontre, un évêque de la région qui m'a donné ce document en arabe. Alors, je l'ai pris, je l'ai lu, avant de faire mon rapport, et j'ai dit que ça serait bien d'écouter aussi la voix, et il serait bon de voir, par exemple, ou de faire référence à quelques documents qui ont été émis.
Très bien, alors on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
الجحيم وافتدى أسرى الهلاك البائسين أبدا واقتادهم نحو العلا مجددا إحسانه المشهور تم الخلاص هللوا يا رنموا تم الخلاص هللوا يا رنموا هللوا يا رنموا لربنا يسوع ها صوت أجناد السماء بالثناء والحمد والتسبيح يعلو معلنا للرب مجدا حيث قد أنا لنا خلاصه هللوا يا رنموا تم الخلاص هللوا يا رنموا تم الخلاص هللوا يا رنموا لربنا يسوع فلتهتف الأكوان لاسمه العظيم ولتعلن الأملاك وجوده العميم نصر من فدى الأثيم لمنتهى الدهور تم الخلاص هللوا يا رنموا.
Voilà, retour dans les studios de Radio Vatican pour cette émission Regard sur le Moyen-Orient avec notre invité, Monseigneur Antonio Snagib, patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques et rapporteur spécial du synode. Alors, Monseigneur Snagib, on le sait, le thème de ce synode, c'est communion et témoignage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mot de communion. Comment faire pour que les chrétiens du Moyen-Orient parlent d'une seule voix, soient unis finalement? Y a-t-il des solutions?
La première est à commencer par la communion à l'intérieur de chacune de nos églises, ce qui veut dire une collaboration majeure, une coordination majeure, un travail d'ensemble majeur dans chaque église, dans le cadre de ces différents diocèses que nous appelons éparchies. Ensuite, ceci ne doit pas être une orientation de fermeture sur soi. Mais c'est pour unifier aussi notre vision en vue d'une ouverture vers les autres églises chrétiennes dans chaque pays et envers la communauté civile, donc envers tous nos citoyens dans chaque pays, pour une intégration majeure, une coordination majeure, une collaboration majeure pour le développement du pays, ce que nous essayons de faire dans différents domaines. Ensuite, à partir de là, une communion entre les églises catholiques de la région. On a parlé dans les propositions et les recommandations, on parlera aussi de vivifier et de renforcer les structures qui existent, qui sont limitées, de communion et de collaboration.
Est-ce que ça sera un long travail d'aboutir à ça?
Oui, je crois.
Oui, il y a encore du chemin à faire.
Certainement.
D'accord.
Parce que ce n'est pas absent tout à fait, mais c'est pas notre style ordinaire.
Voilà.
Il faut, pour être franc, oui.
Alors, pour parler de style, pour aller plus loin, peut-être, un certain nombre des pères synodaux demandent manifestement à Rome l'extension de leur juridiction hors de leur territoire patriarcal pour pouvoir avoir donc juridiction sur les fidèles de leur diaspora à l'étranger. Est-ce que c'est une revendication majoritaire chez vous tous ?
Oui, bien, cette proposition, ou bien... ce souhait a été exprimé par plusieurs pères synodaux. Nous avons eu beaucoup d'interventions qui sont rapportées ça, soit celles qui ont été écrites ou celles qui ont été lues et présentées dans la salle. Et ce qui fait que ça représente un souhait qui sera présenté. Dans les recommandations, nous avons déjà formulé la proposition dans notre travail de ce soir et qui sera présentée au Saint-Père, dans la fraternité.
Et le respect mutuel.
Et le respect, alors, et aussi la collaboration.
Il y a aussi une autre demande, vous allez nous dire si elle va être présentée officiellement au Saint-Père, c'est que les patriarches dont vous êtes figurent de droit, soient membres de droit du collège qui va élire le futur pape. Alors vous-même, vous serez un électeur, puisque vous avez moins de 80 ans. Vous êtes
pour le moment,
cardinal.
Oui, en voilà. Tant que cardinal maintenant.
Que pensez-vous de cette demande et sera-t-elle présentée ?
Et cette demande aussi... a été déjà dite dans d'autres occasions précédentes, mais je crois qu'elle est plus difficile. J'en ai parlé après mon dernier rapport après les interventions avec l'un des responsables du dicastère du Saint-Siège et il m'a fait un peu cette remarque qui m'a fait vraiment réfléchir. Il m'a dit: est-ce que le Saint-Père intervient dans l'élection des patriarches dans leur Église? Non. L'élection se fait au sein de cette Église.
Mais le Saint-Père donne son assentiment, a posteriori.
Mais c'est, à dire la vérité, c'est une confirmation. Ce que nous appelons la communion ecclésiale. Mmh. Mais en général, une fois faite, jamais ça n'a été refusé. Et naturellement, au sein de l'Église catholique, le chef suprême, c'est le Saint-Père. Et cette communion, en général, toujours accordée. Mmh. Il faut dire que le Saint-Siège et le Saint-Père à la tête expriment un grand égard vis-à-vis des Églises catholiques.
Alors, Mgr Naguib, l'un des grands axes aussi de ce synode, c'est le rôle des laïcs dans la vie de l'Église, un rôle qui est appelé à être de plus en plus grand. Certains se sont un petit peu d'ailleurs étonnés que le rôle donné aux laïcs ne soit pas suffisamment fort. Hier, nous recevions des religieuses, notamment, qui parlaient aussi du rôle des femmes, qui étaient souvent au second rang. Qu'est-ce que vous pensez justement de... est-ce qu'on parle suffisamment des laïcs dans ce synode ?
À partir du Concile Vatican II, et même avant, il y avait aussi des documents des souverains pontifes et du Saint-Siège qui appelaient à une majeure participation et intégration des laïcs dans la vie et la mission de l'Église. Le Concile Vatican II, dans son décret sur le rôle des laïcs, est très, 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 comment dire, est très clair.
Mais je rebondis, pardonnez-moi, justement, Vatican II, il y a même une coïncidence, c'est-à-dire que ce synode a commencé le 10 octobre, 48 ans jour pour jour après le début de Vatican II.
Exactement.
Mais est-ce que les fruits de Vatican II sont vraiment retombés au Moyen-Orient ? Ça, c'est une question qui a été posée par d'ailleurs certains pères synodaux.
Oui, mais peut-être à un rythme moindre qu'en Occident, à cause de nos traditions particulières. Et aussi de notre patrimoine particulier. Mais nous avons toujours essayé d'être sur la même ligne de la pensée de l'Église et de la vie de l'Église catholique. Et l'application est un peu plus lente à cause de la théologie particulière des Églises orientales et même de la réglementation canonique, puisque nous avons aussi l'ensemble
de droit canon.
De droit canonique oriental.
Oui, oui.
Oui.
Alors l'Orient et l'Occident, Monseigneur Naguib, vous êtes maintenant, vous serez d'ici un mois cardinal. De votre expérience, qu'est-ce que les églises orientales peuvent apporter à l'église occidentale latine ?
Quand nous avons notre expérience de pluralité dans l'unité, c'est très important. Et ensuite, d'attachement aux racines, sans écarter ni nier la nécessité d'adaptation. Et ça, ça a été aussi indiqué dans les deux rapports. À tel point qu'il y a eu un appel, soit dans la première relation, rapport, soit dans le second rapport, un appel au renouveau de la liturgie. Et aussi de la formation dans les séminaires, aussi dans les maisons de formation religieuse, dans le style de vie de nos églises, de pastorale. Donc, il y a les deux. Mais comme j'avais dit, et l'application, la mise en pratique est un peu plus lente qu'en Occident.
Je voulais savoir, Monseigneur Naguib, est-ce qu'il n'y a pas un peu un danger de confessionnalisation, je vais y arriver, quand on parle justement des églises orientales, c'est notamment le cas au Liban, ça a été aussi évoqué, mais confessionnalisation aussi même au sein de l'islam, on pourrait dire, entre les chiites, les sunnites, etc. Est-ce que ce n'est pas le grand danger du Moyen-Orient, ça,
une balkanisation religieuse.
Voilà.
Ça dépend des églises locales et de la situation où se trouve chaque église. Par exemple, je parle de l'Égypte, qui est mon pays. Si nous regardons la chrétienté en Égypte, il y a la grande majorité des chrétiens qui sont les coptes orthodoxes. Et se sentant 8 millions, entre 8 et 10 millions dans le pays, ça donne un peu aussi la tentation de vivre chez soi et entre soi. Et tandis que si nous parlons des coptes catholiques, nous sommes 250 000 en tout et pour tout, je ne crois pas qu'on peut avoir cette tentation. Nous ne pouvons pas nous se fier ou nous enfermer sur nous-mêmes, car ça sera un peu notre mort. Et donc ça dépend de la situation de chaque église particulière. Je prends le cas, un autre cas par exemple. Il y a le cas de l'église catholique au Liban. Et même là, il y a les différentes églises catholiques au Liban qui toutes sont assez fortes. Si je parle de l'église maronite naturellement, de l'église grecque melkite, ce sont des églises fortes et bien structurées. Elles ne sont pas enfermées sur elles-mêmes, absolument pas. Mais quand même, il y a des possibilités de se suffire. Mais je vois que dans la pratique, il y a un appel et aussi une vie qui est ouverte. Toutes leurs structures sont ouvertes à leur société et aux autres églises. Nous prenons souvent l'église du Liban, qui aurait pu se suffire, mais qui est très ouverte.
Monseigneur Naguib, on arrive à la fin de cette émission. Très rapidement, est-ce qu'il est trop tôt pour vous demander quel sera, selon vous, le grand fruit de ce synode ? Est-ce que vous avez une idée ?
J'ai le sentiment, et je l'ai vu que c'est un sentiment partagé, une grande attente d'un renouveau et d'un nouvel élan de nos églises orientales catholiques. Au niveau 2, notre vie d'église, chaque église et les églises ensemble, coordination, c'est-à-dire au niveau de notre vie spirituelle, notre vie liturgique, notre vie de majeure connaissance de notre patrimoine patristique et culturel, notre enracinement dans nos milieux de vie, surtout nos sociétés, nos pays, et le dialogue. Il a beaucoup, beaucoup été parlé du dialogue. Et que c'est notre raison d'être et notre mission, disons, dans la cité.
Très bien. Merci beaucoup, Mgr Naguib. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle émission et nous serons en compagnie du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Toile. Merci à tous. N'oubliez pas les sites internet de Radio Vatican et de la Croix, sites sur lesquels vous pouvez retrouver cette émission. À très bientôt.